Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Ce qui nous a frappé dans ces grands groupes, c'est tout de même que les héritiers se battent, se déchirent ou souffrent lorsqu'ils ne sont pas choisis pour justement être autre chose que des rentiers, pour être autre chose que celui qui jouit simplement de la fortune.
Une succession n'est jamais une partie de plaisir. Mais quand elle a lieu au sein d'une grande famille industrielle française, la donne change encore un petit peu. Qui sera l'élu chargé de prendre les rênes de l'entreprise? À qui faire confiance? À qui ne surtout pas faire confiance? Comment éduquer ses enfants pour qu'ils deviennent de bons petits gagneurs? Et pour les héritiers, comment se construire et voler de ses propres ailes quand le patron, c'est papa? Voici l'enquête menée par les journalistes Raphaël Baquet et Vanessa Schneider dans leur livre « Succession » chez Albin Michel. Bienvenue dans l'univers impitoyable des Arnaud, Bolloré, Lagardère, Hermès, Gallimard, Bouygues, Bettencourt et autres ultra-riches. Bonne écoute. Bonjour Raphaël Baquet, bonjour Vanessa Schneider.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Succession, ce sont 12 histoires familiales qui sont passionnantes, entre Santa Barbara et les pages saumon du Figaro, et 12 enquêtes extrêmement précises et bien menées. Dans le podcast Thune, on demande souvent à nos invités s'ils sont à l'aise pour parler d'argent. Est-ce que dans ces familles-là, on est à l'aise pour parler d'argent ?
Non, on se protège de ces questionnements. On parle très volontiers de la marge de l'entreprise, de ses résultats boursiers éventuellement, mais pas de l'ampleur de la fortune familiale et surtout de la façon dont, au sein de la famille, on répartit à la fois la fortune, le pouvoir et surtout comment on se conduit lorsqu'on est très riche, parce que toutes nos familles sont aussi des familles puissantes qui existent au sein du CAC 40 pour beaucoup d'entre elles et qui donc ne vivent pas tout à fait comme le commun des mortels.
Le sous-titre du livre, c'est « L'argent ». Le sang, les larmes. C'est très éloquent. Ça provoque ça, selon vous, une succession ?
Oui, ben une succession, en fait, ça réveille évidemment tout ce qui dysfonctionne au sein d'une famille. C'est-à-dire toutes les blessures du passé, les mésententes familiales, une rupture entre parents et enfants, un divorce mal digéré, des rivalités aussi au sein des fratries. Ça pose la question de est-ce qu'il y a un enfant préféré, est-ce que l'un a été privilégié. Donc ça réveille tout ça et souvent les successions sont d'une très grande violence dans toutes les familles. Et l'argent, il est le vecteur de cette violence. On se bat pour de l'argent comme on va se battre pour des petites cuillères, des assiettes ou un meuble, mais c'est pas l'objet en tant que tel. Ce qu'il y a évidemment derrière l'argent, l'enjeu, c'est un enjeu souvent très affectif et avec des blessures qui n'ont rien à voir avec avec la valeur numéraire en fait de pourquoi on se bat. Donc pourquoi le sang et les larmes? Parce que justement ces questions d'argent dans des familles qui en ont énormément. Et où forcément c'est décuplé, puisque c'est pas simplement l'avenir des uns et des autres, c'est aussi l'avenir d'une entreprise, c'est souvent des centaines de milliers d'emplois, la perpétuation d'une marque ou d'un groupe. Donc les enjeux sont colossaux et ça réveille évidemment des souffrances, des rivalités et de la haine parfois.
«
Alors, on voit bien, en parcourant le livre, qu'il y a autant de successions que de familles. Avant de parler de leurs différences, est-ce qu'on peut quand même leur trouver un point commun ?
Alors, je dirais le point commun dans toutes les successions, c'est que ces grands entrepreneurs ou ces héritiers, puisque certains ont déjà eux-mêmes hérité du groupe familial, ont une vision dynastique. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément, et ça c'est aussi assez français, on ne va pas forcément chercher le meilleur pour diriger l'entreprise après sa mort ou après qu'on ait décidé de la laisser. On va essayer avant tout de choisir quelqu'un de son sang. Et ça, c'est très particulier parce que c'est pas parce qu'on est un grand entrepreneur brillant que parmi ses enfants, on a aussi un grand entrepreneur brillant ou tout simplement quelqu'un que ça intéresse. C'est pour ça qu'il y a des successions, beaucoup, qui sont ratées puisque on s'efforce de chercher au sein des héritiers le bon héritier et parfois, il serait plus judicieux d'aller chercher un cadre externe qui sache gérer l'entreprise de façon efficace et qui ne soit pas forcément du sang familial. Donc, je dirais le point commun, c'est ça, c'est cette tentation presque. C'est là où on voit qu'on a été dans une monarchie en France et c'est cette tentation comme ça de transmettre l'héritage et de créer une dynastie à travers un nom, à travers des produits, à travers des symboles, à travers une éducation. Et ça, c'est en effet typique de ce qu'on retrouve dans la plupart des familles qu'on a étudiées.
On peut dire donc que ces successions des grandes familles, c'est un peu une sorte de perpétuation de la noblesse française, quoi.
En tout cas, quand on est l'héritier et qu'on est choisi pour succéder, c'est-à-dire endosser le pouvoir, incarner un groupe, c'est ce qui vous distingue d'un rentier. Un rentier, c'est quelqu'un qui se contente de prendre les dividendes, parfois très importants, et ça peut vous permettre de mener une vie tout à fait agréable et confortable. Mais ce qui nous a frappé dans ces grands groupes, c'est tout de même que les héritiers se battent, se déchirent ou souffrent lorsqu'ils ne sont pas choisis pour justement être autre chose que des rentiers, pour être autre chose que celui qui jouit simplement de la fortune. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'argent en tant que tel a une valeur, mais encore une fois, on parle de gens qui sont déjà très riches et qui vivent vraiment très au-dessus du niveau des trois quarts d'entre nous. Mais ce qui leur importe, c'est que cet argent soit légitime, qu'ils puissent justement diriger, incarner, être celui qui va succéder et justement être celui qui va perpétuer la dynastie. C'est ça qui frappe dans toutes ces familles.
C'est drôle, cette question de la légitimité de l'argent, c'est une question qui est revenue dans plusieurs de nos épisodes, chez des gens qui ont touché des grosses sommes, qui nous disent, voilà, c'est ce besoin de se sentir légitime. Alors, est-ce que c'est légitime à faire prospérer l'entreprise ou aussi légitime, d'une certaine façon, à perpétuer l'espèce, à perpétuer la famille, quoi. C'est ce poids-là qui pèse sur les épaules de ses héritiers.
Bien sûr, non, mais hériter, c'est pas évidemment, c'est un bienfait parce qu'on est à l'abri et souvent à l'abri pour plusieurs générations. Hein, dans le cadre de nos familles, on sait que ses enfants, ses petits-enfants n'auront jamais à se soucier de rien et qu'on vit sur un grand pied. Mais c'est aussi, ça peut aussi provoquer, d'abord, ça provoque beaucoup de pression parce que. Souvent, ceux qui ont fait la fortune familiale sont des personnalités très charismatiques, inventives, créatives, qui ont inventé souvent des nouveaux métiers, des nouvelles industries, des marques connues mondialement. Donc, il y a toujours cette l'héritier doit se sentir quand même à la hauteur et pas trop écrasé par ce patriarche imposant et charismatique. Donc, il y a ce sujet-là à régler et que l'argent ne compense pas. Et en effet, évidemment, forcément, la question, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour mériter ça ? Donc là, on a deux types de comportements. Il y a ceux qui se disent, moi, je vais reprendre le flambeau et faire, si ce n'est mieux, mais en tout cas aussi bien que mon père. On peut prendre l'exemple de la famille de Jean-Claude Decaux. Jean-Claude Decaux, grand entrepreneur, et ses fils ont repris le flambeau et ont continué à non seulement augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise, à la faire prospérer, à la développer à l'international. Donc là, pour le coup, on a une deuxième génération d'héritiers qui est également une génération d'entrepreneurs et qui est dans la continuité et qui fait de la création de richesses. On a l'exemple également de François-Henri Pinault qui a succédé à son père et qui a contribué à développer encore mieux aussi l'entreprise, qui avait certes hérité d'un très bel empire, mais qui a continué à le développer, à le réorienter aussi vers le luxe en se débarrassant d'anciens métiers qui ne marchaient plus. Donc il y a des héritiers qui sont vraiment qui ont à cœur de montrer que voilà, ils sont pas simplement des héritiers, mais ils ont des responsabilités et des responsabilités entrepreneuriales et sociales. Et en effet, il y a des héritiers qui d'abord ne sont pas du tout intéressés par l'entreprise, ils ont bien le droit, hein, qui ne sont pas du tout intéressés, qui ont envie de faire autre chose, qui veulent s'éloigner de la famille pour tout un tas de raisons, qui peuvent être personnelles, qui peuvent être... Souvent, c'est pas vécu de façon sereine, puisque en effet, ce sont des gens qui vivent sur un très grand pied, sans avoir véritablement de métier ou de reconnaissance.
C'est toute la différence entre l'héritier qui travaille, transmet, fait prospérer l'entreprise, et encore le rentier. C'est ce que Bernard Arnault, qui s'y connaît en succession, appelle la grande tribu des inutiles. C'est-à-dire que vous pouvez être très riche, toucher vos dividendes, mais vous ne servez à rien. Et ça, ce qui nous a frappé d'ailleurs, parce que parfois, un peu sottement, notre premier élan, c'est de dire « Ah, formidable, on les envie !» Mais en fait, on a rencontré aussi beaucoup de frustration chez ceux qui... n'incarnent pas ou n'ont pas le pouvoir qui va avec la fortune. Avoir la fortune seule, surtout peut-être dans un pays comme le nôtre qui est aussi celui de la Révolution, c'est un privilège qui est difficile à assumer. Et très souvent, d'ailleurs, ces rentiers s'exilent, pas seulement pour des raisons fiscales, évidemment d'abord pour des raisons fiscales, mais aussi pour des raisons d'image et de légitimité.
Pour reprendre le cas de Bernard Arnault, en effet, a tenu à ce que ses enfants ne soient pas des oisifs. Il était hors de question de faire de ses enfants des fils à papa, jet-setters, qui vont en boîte de nuit, se saoulent sur des yachts et se tournent les pouces avec la fortune de papa. Donc, il les a poussés à faire des études, ses cinq enfants, il les a pas lâchés d'une semelle, il a voulu qu'ils rentrent chacun dans l'entreprise avec tout un parcours évidemment accéléré, hein, qu'on n'a pas quand on est lambda, et un parcours accéléré, un parcours privilégié avec des bons enseignements, avec des cadres qui veillent sur eux, mais ce sont des enfants qui travaillent tous, la valeur travail est très très importante. Donc, ils travaillent tous. Il est hors de question que l'un d'entre eux ne travaille pas. Ils travaillent dans des branches différentes de l'entreprise et ils doivent apporter les preuves de leur implication, de leur performance, de leurs résultats, non seulement à leur père, mais au reste de l'entreprise et notamment aux hauts cadres qui peuvent aussi regarder les héritiers d'un œil un peu suspicieux. C'est pas facile quand on travaille dans l'entreprise de papa à maman, face à des cadres qui sont bardés de diplômes, qui sont brillants, d'être vraiment considérés comme étant légitimes à être là. Donc, parfois, les héritiers doivent en faire presque plus que les autres.
La bonne éducation d'un héritier, c'est justement lui enseigner à travailler et lui enseigner à avoir un rapport mesuré ou en tout cas sain à l'égard de l'argent. Et on le voit bien, Bernard Arnault effectivement a fait très attention, associant dès le plus jeune âge l'argent de poche aux bonnes notes. Très classiquement d'ailleurs, comme beaucoup de familles.
Oui, c'est très surprenant d'ailleurs. C'est lui qui instaure la règle selon laquelle pour avoir le dernier jeu vidéo, il faut ramener 10 20 sur 20 consécutifs.
Exactement. Il associe toujours 10 20 sur 20 à un jeu vidéo, à une récompense, à un argent de poche supplémentaire. Il contrôlait, lorsque ses enfants étaient même des jeunes gens, des adolescents ou avaient 20 ans, il contrôlait quand même leurs notes de restaurant, qu'ils payaient, mais de façon à ce qu'il n'y ait pas d'excès. À l'inverse, Jean-Luc Lagardère échoue dans l'éducation de son héritier Arnaud en l'ensevelissant littéralement sous un déluge d'argent. C'est-à-dire que dès son plus jeune âge, le petit Arnaud, qui a été privé de sa mère après un divorce houleux dans lequel Jean-Luc Lagardère s'est battu pour que son ex-femme n'ait pas la garde de son fils, eh bien évidemment la compensation se fait par l'argent. Et Arnaud Lagardère, à 11 ans, passe de palace en palace. C'est un homme qui, encore aujourd'hui, n'a jamais pris un avion de ligne normal. Et donc il a un rapport complètement dénaturé à la fortune, à la facilité et donc aussi au travail. Et ça, c'est un mauvais héritier d'un empire industriel.
C'est même le mauvais héritier hein, qui est cité visiblement par tous ses héritiers. C'est le contre-exemple à ne pas suivre. C'est l'échec français, Arnaud Lagardère.
C'est l'échec français essentiellement lié justement à une difficulté à associer travail et argent. C'est-à-dire que, effectivement, Arnaud Lagardère n'avait pas envie, manifestement, de succéder à son père. Il s'est conformé au désir puissant de cet homme charismatique qu'était Jean-Luc Lagardère. Mais toute sa vie, il est resté, au fond, quelqu'un de velléitaire, paresseux, jouissant de ses facilités, sans montrer qu'elles découlaient aussi de la réussite du groupe et donc de son travail potentiel. Et là, on a vraiment un principe éducatif très intéressant qui montre que l'argent seul, c'est l'assurance que votre héritier est dévoyé de ce point de vue-là et qu'il peut effectivement ne pas être digne de diriger l'entreprise.
Ce qu'on sent aussi à travers tous ces exemples, c'est la fascination du père. Évidemment, ce ne sont que des pères, à part Liliane Bettencourt, qui est la seule femme, mais ces patriarches sont absolument tout-puissants, fascinants. C'est Arnaud Lagardère qui dit « Je regardais mon père comme si c'était Mick Jagger ».
Oui, parce que c'est... Alors, il y a un effet générationnel. Les entrepreneurs auxquels nous nous sommes intéressés, ce sont des entrepreneurs qui ont émergé dans les années 70, 80, 90. Et c'était essentiellement, en effet, des entrepreneurs hommes. En effet, pour créer des empires comme ça en une seule génération, on parle de ce qu'a créé Bernard Arnault ou François Pinault ou Jean-Luc Lagardère ou Jean-Claude Decaux, il faut un certain charisme, un certain génie, une énergie. Donc ça fait évidemment des pères écrasants. Ça fait des pères où il est difficile, quand on est enfant, de se sentir à la hauteur. Ça fait souvent aussi des personnalités assez autoritaires, assez tyranniques, les chefs d'entreprise comme ça, qui se sont vraiment battus pour faire prospérer leur entreprise, ce ne sont pas des tendres, hein, ce ne sont pas des tendres ni avec leurs collaborateurs, ni avec leurs adversaires, et souvent pas avec leurs enfants non plus. Ce sont des gens qui ont des égos très très forts, qui estiment que pas grand monde n'est à leur hauteur et qui le font sentir. Donc ça peut créer chez les enfants un sentiment soit d'infériorité, soit chez certains, ça devient une sorte de challenge d'essayer d'être à la hauteur du père. Mais là encore, c'est une question de personnalité. Certains renoncent et n'ont pas du tout envie de se mesurer à ça. chez dans la famille Pinault, il y a 3 enfants. Les 2 autres ont pas manifesté l'envie d'essayer de reprendre l'empire familial. Voilà, ça les soit parce que ça leur semblait trop lourd, soit parce que ça les intéressait pas. Dans la famille Bolloré également, l'aîné des enfants Bolloré, même si maintenant il a un poste officiel au sein de la direction du groupe, il a pris la tangente assez tôt et il a pas voulu se mesurer à son père. Donc oui, c'est, et on le voit bien pour reprendre l'exemple Bolloré, où Vincent Bolloré est censé maintenant avoir laissé les rênes à ses enfants, mais il reste évidemment le grand marionnettiste du groupe. Donc c'est une fausse liberté qu'il a laissée à ses enfants. C'est lui qui continue à tirer les ficelles.
En fait, comme dans ces grands groupes, la fortune est associée à la survie d'un groupe industriel, donc des emplois, des produits, une marque, un nom, le contrôle du patriarche est d'autant plus étroit, car il ne transmet pas seulement de l'argent, il transmet la survie de son groupe. Et donc, il surveille dès le plus jeune âge, à vrai dire, les fréquentations de ses enfants. On a été frappé, par exemple, de voir à quel point tous ses enfants fréquentent peu ou prou les mêmes écoles, hein, 2 ou 3 écoles privées dans Paris qui rassemblent tous ces héritiers, à quel point leurs fréquentations sont souvent surveillées. Hein. Bernard Arnault surveille, et dès l'enfance, il surveillait qui étaient les invités de ses enfants au goûter d'anniversaire, à quel point les mariages sont surveillés, car évidemment, il ne faut pas risquer un divorce conflictuel qui, tout d'un coup, déstabiliserait un groupe industriel. Donc, on le voit dans les grands groupes, évidemment, il y a des clauses sur les conjoints, hein, de façon à ce que ces conjoints, s'ils ont des parts acquises par le mariage, soient obligés de les rendre, si vous voulez, en cas de divorce. C'est le cas chez les Mulliez, c'est évidemment le cas chez les Arnault au sein de LVMH, où vraiment... Vous n'êtes pas tout à fait libre de mener votre vie telle que vous l'entendez. Vous avez une vie confortable, mais vous êtes toujours sous le regard du patriarche qui est le garant de la survie du groupe et du nom. Et cela, évidemment, ça peut être douloureux pour certains.
Ce ne sont définitivement pas des vies normales.
Non, ce sont pas des vies normales dans le sens où évidemment d'abord on vit sous un, là on parle de grandes fortunes qui induisent un certain nombre de même de précautions. Les enfants Arnault, comme le fils de Jean-Luc Lagardère, ont été élevés avec des gardes du corps. Ils ne peuvent pas se déplacer seuls et tout ça depuis le plus jeune âge. Donc, c'est comme des enfants de chefs d'État ou de royauté à l'étranger. Donc, c'est évidemment, ce ne sont pas des vies normales. Quand on peut pas aller à l'école sans un garde du corps, on n'a pas, quand on porte un nom qui est très identifié et que dès la cour de récréation, tout le monde sait que vous êtes l'héritier Peugeot ou Decaux, ou ça crée évidemment des rapports différents aux autres.
Alors, préparer sa succession pour ses grands patrons, c'est donc se préparer à l'idée de mourir. Est-ce que quand on est si puissant, il n'y a pas quelque part un déni de la mort? D'autant que ses grands patrons, vous le racontez, hein, quasiment tous ont une hygiène de vie excellente. Ils font du sport, ils font extrêmement attention à ce qu'ils mangent, ils sont très suivis. Ils sont prêts à mourir, ces gens-là?
Non, il y a évidemment chez ces grands patrons un désir d'immortalité. Ils veulent vivre le plus longtemps possible, dans la meilleure santé possible. Bernard Arnault, à cet égard, il est c'est vraiment l'exemple absolu d'une hygiène de vie impeccable, d'un rythme de vie extrêmement réglé. Ce sont des gens qui sont suivis par des cohortes de médecins qui font très attention, qui pratiquent des sports, qui veulent rester vraiment vraiment en forme et qui retardent régulièrement la date de leur mise à la retraite, même par des changements de statut. Bernard Arnault l'a fait, il a reculé l'âge de la présidence de son groupe pour rester un peu plus longtemps. Et en fait, il y a toujours une ambivalence chez ses patrons de à la fois vouloir transmettre à ses enfants et transmettre pas trop tard, parce qu'ils ont tous des exemples en tête, celui de Jean-Luc Lagardère en premier, ils savent qu'il peut arriver des accidents, qu'on peut mourir, qu'on peut disparaître, et donc il faut savoir former ses héritiers et passer la main tant qu'il est temps, et quand on est si possible, préparer les choses quand on est en bonne santé. Et en même temps, il y a une difficulté terrible à lâcher les rênes, parce que ce sont des gens qui ont consacré toute leur vie et toute leur énergie et tout leur temps libre à la création de leur empire. Donc ça crée un vide, forcément, d'arrêter. François Pinault nous l'a confié, lui qui a su se retirer très tôt au profit de son fils, même presque trop tôt, certains disaient, et son propre fils était surpris qu'il lui lègue les clés aussi vite, à traverser après un épisode dépressif, parce que le téléphone s'arrête de sonner, parce que tout d'un coup, on a l'impression que sa vie n'a plus de sens. Donc, il y a ce double tiraillement, en effet, d'un désir d'immortalité, de rester aux commandes le plus longtemps possible, de rester le chef le plus longtemps possible, et en même temps, la sagesse de savoir qu'il faut quand même, qu'on n'est quand même pas immortel et qu'il faut préparer un petit peu l'avenir.
Il existe d'ailleurs des grands patrons qui assument de ne pas vouloir se retirer. Jérôme Sédoux, à cet égard, est très éclairant. Il dit lui-même qu'il souhaite mourir sur scène comme Molière et que donc il continuera à diriger son groupe Pathé, son grand groupe de cinéma et de salles de distribution, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et il n'a trouver aucun héritier à sa hauteur, bien qu'il ait 8 enfants. Il avait un vivier tout à fait particulier. C'est celui d'ailleurs qui a la progéniture la plus nombreuse. Et aucun d'entre eux ne trouve grâce, au fond, à ses yeux. Il ne s'imagine pas de successeur parce qu'il ne s'imagine personne à sa hauteur. Et il préfère voir le risque de son groupe probablement vendu à son décès plutôt que d'accepter l'idée qu'il puisse y avoir un prolongement de ce qu'il est. Ça, c'est tout un cas pas si exceptionnel que cela, parce que une grande partie des entreprises familiales en France, pratiquement la moitié, finalement, après la mort du successeur, elles disparaissent ou elles sont vendues. En tout cas, elles n'arrivent pas à se perpétuer familialement. Et là, on a vraiment un exemple très spectaculaire d'un homme qui lui-même est un héritier et qui n'est pas capable de s'imaginer transmettre le pouvoir à ses propres enfants.
Quand vous donnez ce type d'exemple, on voit bien que ce livre ne parle évidemment pas uniquement d'argent, mais beaucoup de psychologie, voire de psychanalyse. Et de nature humaine, au sens large. Parce qu'on peut imaginer que Jérôme Sédoux, dans ses 8 enfants, il y en a bien un qui ferait le job. La réalité, c'est qu'il ne veut pas déléguer. Il ne veut pas que quelqu'un lui succède, en fait.
En tout cas, il a fait en sorte qu'aucun de ses enfants ne puisse être en mesure de lui succéder, puisqu'il ne les a jamais formés à cela. Il ne les a pas formés. Et c'est vrai qu'on a souvent eu l'impression, en plongeant dans ces familles, d'être un peu Freud au sein du capitalisme français. Bien sûr que la psychanalyse est un outil très éclairant pour comprendre ces familles. D'ailleurs, ceux qui réfléchissent le plus à la succession font très attention à la psychologie. Bernard Arnault, qui est sans doute le maître dans la réflexion sur comment transmettre, fait très attention à préserver l'équilibre psychologique des individus, c'est-à-dire de chacun de ses enfants et entre ses enfants. Il a organisé littéralement l'entente. Il a des enfants de 2 mariages différents. Généralement, dans une famille, ça introduit le poison de la rivalité. Il a vraiment fait en sorte que les deux enfants du premier mariage, Delphine et Antoine, soient les parrains des trois suivants du second mariage. Il organise des tournois de tennis, des vacances en commun. Bref, l'éducation intellectuelle, académique, les diplômes qui sont si importants pour Bernard Arnault, qui est quand même qui a la religion des grandes écoles, est presque au même plan que l'équilibre psychologique, car il sait bien qu'une fragilité psychologique, un jaloux, un meurtri, un frustré dans une famille, c'est l'assurance de déchirement plus tard.
C'est le cas d'ailleurs du cousin Hermès, le fameux cousin Hermès, qui a vendu ses parts en secret, ce qui a créé un séisme dans la maison Hermès.
Bien sûr, et tous les prédateurs d'entreprise le savent. Et Bernard Arnault, qui a été un grand prédateur d'entreprise, qui a fait une partie de sa fortune comme ça, le sait aussi. Il faut, dans des familles, surtout des familles très nombreuses, qui en sont parfois à la 5e, 6e, 7e, 8e génération par rapport au créateur, le prédateur va essayer de repérer le maillon faible. Donc le maillon faible, ça va être le cousin qui a des besoins de liquidité parce qu'il a une pension alimentaire très lourde à fournir. Donc, il peut être tenté de vendre ses actions à l'extérieur. Ça peut être celui qui s'est senti humilié par un frère, par un cousin, qui a demandé une place qu'il n'a pas obtenue, qui a eu un conflit avec tel ou tel. Donc, plus la famille est nombreuse et plus la famille s'est construite il y a longtemps, plus évidemment, c'est difficile de maintenir cette unité familiale. Et il y a des personnalités qui peuvent être tentées pour plein de raisons de vendre leur part à l'extérieur, de sortir du groupe, de trahir pour les autres et évidemment de mettre en difficulté la famille. Mais c'est quelque chose qu'on a retrouvé surtout chez les familles qui se sont constituées, les groupes qui se sont constitués il y a plusieurs générations. C'est très, très difficile de maintenir une cohérence quand ce sont les arrière-arrière-grands-parents qui ont fondé la société. Et quand on se retrouve, comme dans la famille Mullier, qui possède Auchan, qui possède Décathlon, qui possède toute une kyrielle d'enseignes et qui sont maintenant 1500 héritiers dans la famille, c'est très, très difficile de maintenir une cohérence et une entente entre tous, puisque tout simplement, la plupart ne se connaissent même plus, en fait.
L'affaire de l'OPA hostile de Bernard Arnault sur Hermès, elle repose essentiellement sur la connaissance intime des déchirements familiaux. Bernard Arnault veut racheter Hermès. Il fait l'analyse qu'ils sont une soixantaine d'héritiers, que parmi cette soixantaine, il y en a qui ont une relation assez distendue à l'entreprise. Et il repère notamment parce qu'il a autour de lui, d'abord lui-même, il regarde les familles, évidemment, et puis il a autour de lui une forme d'espionnage, des gens qui espionnent pour lui industriellement et psychologiquement presque, comment l'entendre est à court dans les familles. Il repère effectivement un cousin qui est parti en Suisse, qui a pris un peu la tangente, qui est un rentier justement, qui n'a pas de place dans l'entreprise, qui est parti vivre sa vie d'une façon autonome en échappant au contrôle familial. Et en repérant ce cousin, il repère le maillon faible. Et donc, il va racheter ses actions. C'est très minoritaire, mais ça lui permet de mettre un pied dans la place. Et évidemment, son idée, c'est d'en racheter de façon souterraine, petit à petit, de grignoter le capital, puis de devenir incontournable. C'est contre ça, ce type de prédation, que la famille va se réunir, ce qu'elle n'avait jamais fait jusqu'ici. On va dire, il y avait trois branches, des cousins, bon, on se retrouvait de temps en temps aux courses de chevaux, et voilà, on en restait là. La famille va tout d'un coup découvrir que l'entente familiale est vitale pour la survie du groupe, et elle va se réunir, passer un pacte d'actionnaires, bien sûr, mais pas seulement un pacte d'actionnaires, c'est-à-dire qu'elle va organiser son entente, elle va choyer les héritiers, faire en sorte qu'ils n'aient pas seulement des dividendes en fin d'année, mais qu'ils associent ces dividendes au lien familial, au patrimoine familial, à la survie de la famille et au prolongement du nom et à ce qui a été créé par leur ancêtre. Donc, encore une fois, c'est pas seulement l'argent qui compte. C'est ce que ça signifie au sein d'une famille comme perpétuation de ce qu'on a créé.
Donc, tout l'enjeu est d'avoir une famille la moins dysfonctionnelle possible, si tant est que ce soit justement faisable, quoi. Il y a cet adage que vous citez, qui est assez commun dans la dynastie des affaires. La première génération crée, la deuxième gère et la troisième dilapide.
Oui, c'est une sorte de mantra, mais de malédiction. C'est ce qu'il faut éviter, évidemment, en effet, la première génération, c'est elle qui crée. La seconde, elle a été élevée dans le culte de la première. Et dès la troisième, le lien peut se déliter. Ça intéresse moins. Les héritiers peuvent avoir envie de faire autre chose. Ils peuvent ne plus, s'ils sont mal éduqués, ne plus avoir le goût du travail et simplement avoir envie de vie oisive et finalement laisser l'entreprise partir à volo. Et c'est ce qui arrive dans énormément d'entreprises, même moindres, moins connues, qui disparaissent ainsi, en fait, avec des héritiers qui préfèrent s'acheter une maison, une piscine, une voiture, plutôt que de garder l'argent pour le réinvestir et pour regarder un peu vers le futur et assurer de la survie de l'entreprise et de l'adapter aux mutations du monde moderne.
Alors, il y a un troisième volet que j'aimerais aborder, c'est celui du rapport à l'argent des uns et des autres. Ce qu'on voit globalement, c'est que ce sont quand même des milliardaires plutôt discrets. Mais il y a quand même quelques flambeurs. C'est un peu, moi j'ai senti qu'il y avait quand même les flambeurs contre les frugaux ou un peu les protestants, quoi. Ils se jugent les uns les autres.
Oui, alors on a rencontré quelques familles qui sont en effet soit protestantes, soit catholiques sociales aussi. Les Mulliez sont des catholiques du Nord, plutôt austères. Donc les Mulliez, Auchan, Decathlon, Kaby, Norauto, toutes ces marques-là. Une famille très très puissante, très riche. Et qui, eux, alors c'est dans l'éducation depuis des générations, c'est l'anti-bling-bling. Mais c'est même pas fin. Donc, ils ont de l'argent, mais il y a des règles extrêmement strictes au sein de la famille. C'est on a droit de s'acheter une maison, mais pas deux. Quand on s'achète une belle maison, pas sur rue. On a une maison un petit peu cachée derrière. On a une voiture comme tout le monde. On n'a pas une voiture de marque ou de voilà. On part pas. Eux, c'est leur hantise, ils appellent ça le syndrome Bahamas. C'est que leurs héritiers aillent avec cigare au bec sur un yacht, se faire prendre en photo avec des mannequins. Eux, c'est tout le contraire. D'ailleurs, certains même les prennent pour des radins, puisqu'ils reçoivent avec les produits au champ, ils font des dîners au champ, il n'y a pas de luxe, pas de. Alors, donc là, c'est un petit peu caricatural, mais en effet, on a observé tout type de rapport à l'argent. Tous font attention parce qu'ils savent que c'est mal vu en France d'exhiber sa fortune, donc on fait très attention à ne pas se montrer dans des voitures de luxe. Il y a eu toutes les polémiques sur les jets, donc tout ça ils font extrêmement attention, mais évidemment à des degrés divers. Après, on vit très confortablement, mais c'est un peu vivons heureux, vivons cachés, leur adage évidemment.
Il y a deux choses qui plaident contre le bling-bling, en fait. D'abord, la vulgarité, l'inquiétude devant la vulgarité. Et à cet égard, Arnaud Lagardère, par exemple, se montre particulièrement transgressif. C'est-à-dire qu'il a épousé une femme qui, elle, postent sans arrêt sur Instagram des photos de starlettes de télé-réalité, au fond, c'est-à-dire où elles se montrent toujours sur des plages exotiques extraordinaires, en bikini, allant de palace en palace. Et ça, évidemment, c'est une image que les affaires, le monde des affaires, réfute absolument. Trop vulgaire, trop dissociée de la nécessité du travail, trop subversif, à la fois en France et vis-à-vis de l'opinion publique. Et puis le deuxième élément, c'est le danger. Plus vous montrez avec ostentation votre fortune, plus vous risquez d'être attaqué. Bernard Arnault est un homme qui ne peut pas se promener seul dans la rue. Il est devenu le symbole politique de la fortune en France. C'est pas toujours le cas d'autres héritiers qui justement cultivent la discrétion. Axel Dumas, qui dirige Hermès, qui est un des héritiers du groupe Hermès, se promène absolument dans la rue. Vous ne le reconnaîtriez pas. D'ailleurs, vous ne le connaissez pas probablement physiquement. Donc, évidemment que le souci de discrétion va non seulement avec des valeurs culturelles et familiales pour certains d'entre eux, mais ça va aussi avec un souci de sécurité et la volonté de pouvoir mener une vie, sinon normale, parce qu'ils ne vivent pas comme le commun des mortels, mais en tout cas sans être systématiquement entouré de gardes du corps et bardé de systèmes de sécurité. C'est pourtant le cas, parce que, à vrai dire, la plupart d'entre eux vivent dans des univers sécurisés. C'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup d'entre eux vivent dans cette villa Montmorency, cette espèce d'ensemble résidentiel de villa au cœur de Paris, enfin sinon au cœur, en tout cas à l'ouest, dans l'ouest parisien, dans le 16e arrondissement. C'est pas pour rien qu'ils vont presque tous en vacances sur les hauteurs de Saint-Tropez, parce que ce sont des univers non seulement où ils sont entre eux, mais aussi des univers sécurisés.
Et puis, il y a eu des traumatismes dans le capitalisme familial. Au sein de la famille Peugeot, un des héritiers Peugeot avait été enlevé à l'âge de 4 ou 5 ans par des ravisseurs qui demandaient une rançon. Du coup, Liliane Bettencourt a été très protégée. Ses parents l'ont retirée de l'école aussi. Il y a eu toute une époque où il y avait des enlèvements d'héritiers et ça a provoqué évidemment beaucoup de traumatismes au sein de ces familles.
Est-ce que pour le grand public, vous avez l'impression que l'argent des héritiers est plus respectable que l'argent, par exemple, des joueurs de foot ou des acteurs qui cartonnent ? Est-ce que il est perçu comme plus noble ?
Ah non, c'est tout le contraire. Alors, c'est très frappant, c'est-à-dire que les gens ne sont pas révoltés par les dizaines de millions que gagne Kylian Mbappé ou Zinedine Zidane, millions qui rémunèrent leur talent, mais qui rémunèrent d'abord leurs sponsors, les propriétaires de leur club et leur famille, disons leur cercle relativement restreint. En revanche, ils sont extrêmement choqués par des grands patrons qui ont le même nombre de millions, hein, parfois plus, bien sûr. Bernard Arnault est plus riche que Kylian Mbappé, mais qui en même temps créent et font vivre des centaines de milliers d'emplois. C'est très frappant de voir qu'effectivement, il y a une association différente. Je pense que c'est parce que, je me permets de donner cette hypothèse, parce que justement, quelqu'un comme Kylian Mbappé ou Zinedine Zidane vient justement d'un milieu très modeste. Et donc, sa réussite spectaculaire, même si elle se chiffre en plusieurs dizaines de millions, elle est tout d'un coup légitime et enviable, probablement. Chacun aimerait être comme cela. Être un héritier, ça suppose, ou être celui qui a créé l'entreprise, hein, ce qui est le cas de Bernard Arnault ou de François Pinault, au fond, ils transmettent cet argent, mais souvent, il y a l'idée qu'il était déjà privilégié au départ, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Bernard Arnault, c'est tout à fait clair, il vient de la bourgeoisie du Nord, bourgeoisie très éduquée. François Pinault vient au contraire d'un milieu assez simple, il fait le début de sa fortune en épousant une petite héritière de l'industrie du bois. Mais vous voyez, vous avez des... Jean-Claude Decaux avait tout juste son certificat d'études et venait d'un milieu tout à fait modeste. Donc, Mais ça, dans le grand public, ça passe pas forcément. Ce n'est pas évidemment forcément identifié. Et donc, effectivement, on a plus d'indulgence envers une réussite spectaculaire d'un joueur de football ou d'un acteur de cinéma pour un entrepreneur qui a pourtant créé de la richesse et des emplois, parfois.
J'aimerais vous demander de me dire honnêtement quel personnage de ces grandes dynasties vous ont le plus ébranlé.
Ce qui, moi, m'a touché le plus, c'est quand on sent dans les familles où il y a eu beaucoup de souffrance et quand on se retrouve face à des déchirements terribles. Je pense à la famille Gallimard, où un des frères était promis à la gouvernance de l'entreprise. Son père l'avait mis sur les rails. C'était à lui que devait revenir cet empire de la littérature et qui a été chassé brutalement par son père au profit de son frère cadet, Antoine Gallimard, qui a développé le groupe d'ailleurs avec un très très grand succès. Donc c'est un très bon héritier, mais ça a laissé des traces absolument épouvantables au sein de cette famille. Et quand on découvre comme ça une famille où les deux frères ne se parlent plus depuis 30 ans, où leurs enfants ne se connaissent pas, où lors de l'enterrement de leur père, chacun se retrouve de part et d'autre d'une tombe sans s'adresser la parole, il y a quelque chose de bouleversant, oui, et de glaçant.
Ce qui est intéressant, évidemment, c'est quand ces successions se passent de façon tragique. Et on a rencontré de la tragédie. C'est le cas, évidemment, chez Jérôme Sédou, dont c'est un autocrate, Jérôme Sédou. Hein. Cette façon de ne pas voir d'héritier à sa hauteur, évidemment, est quelque chose de tout à fait frappant. Mais il y a des morts à cause de cela. Son ex-femme s'immole par le feu après un divorce très très brutal. Il épouse la femme du fils de son rival, hein, vraiment pour détruire au fond autour de lui. Donc c'est assez frappant. Et puis parfois c'est vrai que une autre famille comme les Bouygues par exemple, c'est intéressant de voir que le patriarche peut se choisir un héritier et ne pas supporter les résultats de son choix. Francis Bouygues choisit d'abord son fils aîné, Nicolas, qui a fait les mêmes études que lui, qui lui ressemble, qui a un caractère tout à fait similaire, une forte personnalité assez tranchante. Et puis finalement, d'ailleurs, il partage son bureau physiquement. Ils sont deux dans le même bureau. Puis il ne supporte pas de voir son semblable, de voir ce petit moi qui est là, prêt finalement à le remplacer. Et il va l'écarter de façon impitoyable. Et ce qui est intéressant, c'est ce que devient Nicolas après. C'est-à-dire que Nicolas Bouygues ne s'est jamais tout à fait remis d'avoir été choisi puis écarté. Et il n'a pas finalement réussi complètement dans les affaires, bien qu'il ait lui-même monté son entreprise. Il a fait de la prison. Et donc, on voit bien que cette transmission du pouvoir, de la fortune, du nom, de ce que l'on a créé, ça ne va pas forcément de soi. Et ça charrie beaucoup de souffrances, parfois, de cruauté et d'éléments tout à fait dramatiques dans une vie.
On est quand même vraiment dans le registre là de la tragédie, hein. C'est-à-dire on nous a donné quelque chose d'exceptionnel à la naissance, mais bon, on en paye le prix, hein. Il y a quand même cette notion de punition. Est-ce que chez certains héritiers, vous avez quand même senti une notion de jouissance, de plaisir, de bonheur d'être dans cette dynamique d'argent, de succès, de pouvoir, et puis ça roule, quoi, ça se passe bien, c'est joyeux, c'est vivant. Peut-être chez les Decaux, non ?
Oui, alors joyeux, je dirais pas ça, parce que c'est toujours une inquiétude, en fait, de diriger des groupes comme cela. C'est pas parce que ça marche à l'instant T que ça va marcher dans 5 ans, dans 10 ans. On n'est pas à l'abri de revers, on n'est pas à l'abri de mauvaises décisions. Donc, même dans les transmissions réussies, celle des Pinault qui marche très bien, celle des Decaux qui marche très bien, celle de Gallimard qui marche très bien. Voilà, ce sont des gens qui n'ont forcément pas la sérénité de celui qui n'a pas de poids et de responsabilité. Encore une fois, quand on est à la tête de groupes et d'empires comme ça, on porte sur les épaules l'avenir de centaines, de milliers ou de dizaines de milliers d'emplois, d'actionnaires. On est observé, on est jugé, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, ce sont pas même quand ça marche bien, je pense pas que ça soit être entrepreneur, que ça soit des parcours de sérénité absolue.
En vérité, faut pas se mentir, c'est quand même une chance d'être un héritier. C'est un privilège, mais c'est pas une garantie de bonheur. Donc, et on l'a bien vu, il y a évidemment des héritiers heureux, mais c'est quand même un poids, et surtout, ça ne dispense pas de plonger au fond dans les déchirements que connaissent toutes les familles, la vôtre, la nôtre. C'est-à-dire que, quand même, être l'enfant préféré ou celui qui n'est pas choisi, être en rivalité avec son frère ou sa sœur, être à la hauteur ou pas de son père, ce sont des questions qui se reposent toujours. Et ce qui éclate dans les familles, parfois à la mort de quelqu'un devant chez le notaire, là ça éclate bien avant, parce que évidemment le choix du successeur se pense avant. Mais c'est pas si différent de ce que toutes les familles, et c'est là l'aspect universel des successions. À chaque fois qu'on enquêtait sur une de famille, ça nous renvoyait aux nôtres, à ces familles qu'on connaissait de près ou de loin, ou qui étaient souvent les nôtres, à la façon dont nous avons été éduqués ou dont nous éduquons nos enfants. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui est très humain et que l'on retrouve partout, si ce n'est que la fortune décuple les passions. Et c'est ça la différence. Mais les mécanismes sont les mêmes que dans l'humanité tout entière.
Oui, on voit donc ces mécanismes se rejouent. C'est effectivement la grande comédie humaine. Et puis, ce qui se rejoue aussi à l'infini, c'est cette question à laquelle, pourtant, il me semble qu'on a pas mal d'éléments de réponse, hein, que ce soit à travers votre livre ou à travers des milliers de livres qui ont été écrits sur ce sujet. Mais on se la pose quand même, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur ?
Ben pas forcément. L'argent peut être source de rivalité, de frustration. Quand on a de l'argent, on a peur de le perdre. Quand on a de l'argent, on a oui. Donc c'est évidemment, il vaut mieux naître en ayant que sans en avoir. Mais ce n'est pas une garantie de bonheur et de sérénité, c'est sûr.
On a vu d'ailleurs des héritiers malheureux, frustrés, ou en tout cas qui portent une frustration ou un malheur familial pendant des années. Christian Gallimard a perdu le pouvoir il y a presque 30 ans et il ne s'en est toujours pas remis. Les Peugeot, les cousins Peugeot se sont séparés à cause justement de choix stratégiques différents et d'une vision qu'ils avaient d'eux-mêmes et de leur nom et de l'entreprise. Et même s'ils s'organisent pour être en accord lors des conseils d'administration, sont toujours en désaccord. Les Bouygues, au sein de la fratrie, le poison de la rivalité et de la jalousie s'est insinué en eux et ils ne se parlent plus pour plusieurs d'entre eux. Donc, bien sûr que c'est une chance d'avoir de l'argent, mais c'est pas l'argent qui fait le malheur. C'est les conditions pour l'avoir, pour le légitimer, pour succéder, permettre à la famille de perdurer, c'est ça qui peut faire le malheur. Et donc, effectivement, l'argent ne compense pas les tragédies affectives et les blessures sentimentales.
Voilà,
Vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velly et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velly, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.
Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.